Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue. L'insécurité au Mali, la question reste on ne peut plus d'actualité avec la multiplication des attaques au sud du pays. Après Nara, Misseni, Fakola et la présence des djihadistes signalés dans la commune de Tominia en 3e région, force est de constater que la situation sécuritaire ne s'est guère améliorée dans le pays, bien au contraire. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une telle situation? Jusqu'à quand pourrait-elle se poursuivre ces attaques? Le problème est-il suffisamment pris à bras le corps par les forces de sécurité? Celles-ci ont-elles suffisamment de ressources et de moyens pour venir à bout de ces attaques? L'homme de la rue s'interroge, le spécialiste aussi. Pour tenter de mieux comprendre ce qui se passe dans le pays en termes de sécurité, nous avons trois invités dans ce studio. Ousmane Cornéo, spécialiste en sécurité du Sahel, Siaka Tchebledoumbia du Centre d'analyse économique et politique et Boubacar Bokoum, politologue. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba.
Studio Tamani.
Auditrices, auditeurs, bienvenue. La sécurité, il en est donc une fois de plus question dans cette émission. Actualité obligée, le disait, après les attaques signalées ça et là, ces dernières semaines, les djihadistes sont signalés dans une nouvelle localité, il s'agit de la commune de Tominia. Alors, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Cette question pour un premier tour de table, comment comprenez-vous que les choses prennent une telle tournure? Cornéo, je vous adresse la parole, Ousmane.
Merci beaucoup. Moi, je vous assure que le terrorisme commence à partir de ces attaques à répondre à sa vraie définition. Parce que la définition du terrorisme, c'est la terreur gratuite. Et ceux qui sont terrorisés ignorent pourquoi ils sont terrorisés. Parce que avant, quand les attaques étaient au nord, on se disait pourtant que c'était des personnes qui faisaient ce terrorisme-là pour pouvoir avoir leur nord. Donc ce sont des acolytes des séparatistes, des indépendantistes, des rebelles qui font régner la terreur. Mais quand cette terreur descend jusqu'au sud, on se pose vraiment la question, pourquoi au sud? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'est là la vraie définition du terrorisme. Les, ceux qui sont terrorisés se posent la question, pourquoi cette terreur? Pourquoi on les agresse? Une agression gratuite.
Alors, la multiplication des attaques dans les pays, quelle lecture en faites-vous, Issaka Tchebledoumbia?
Ok, merci beaucoup. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Avant de donner ma lecture des versions, je souhaiterais quand même essayer de rappeler un peu ce qui s'est passé pour comprendre jusqu'où nous en sommes. Déjà le 4 juillet à Toun, à 85 km au sud-ouest de Bankat, ils se sont débarqués là-bas. Et en trois motos, ils étaient sur trois motos et il y a eu un accrochage entre eux et l'armée malienne à ce niveau. Et donc, trois jours après, c'est-à-dire le 9 juillet, c'est maintenant à Tassilement. Ça, c'est à 118 km au nord-est de Tominia. Mm-hmm. Alors maintenant, vous posez la question de savoir quelle tournure est-ce que ces événements sont en train de prendre. Moi, aujourd'hui, c'est que je m'attendais à ça et je m'attends encore beaucoup plus que ça. Mm-hmm. Et comme le disait le ministre français de la Défense quand Charlie a été attaqué, à mon avis, depuis que l'intervention française a eu lieu ici, depuis que les événements de 2012 se sont passés, la question pour moi aujourd'hui n'était plus de savoir si le Sud allait être attaqué, mais quand est-ce que le Sud allait être attaqué. Bamako a été attaqué, Mesele a été attaqué, Nara a été attaqué, et aujourd'hui à Tominia. Et donc, c'est une menace qui n'est pas à son terme et qui va s'étendre au-delà des frontières.
Boubacar Bokoum, je rappelle que vous êtes politologue.
Merci. Je commence par dire bonsoir aux éditeurs et aux éditrices de Studio Tamani. Ma lecture de cette insécurité, comme le camarade vient de le dire, ce n'est pas surprenant. Dans la mesure où déjà les djihadistes sont dans leur retranchement, parce que l'étau se resserre autour d'eux au niveau du nord, donc nous avons un certain relâchement à l'intérieur. Parce qu'à un moment donné, on a pensé que la sécurité elle est juste zonale, alors qu'en réalité, le problème il est plutôt global. Donc si les mesures de sécurité ne sont pas prises de façon globale, effectivement, nous sommes victimes aujourd'hui d'une infiltration, du harcèlement, dès lors qu'ils connaissent effectivement le dispositif sécuritaire dont nous disposons, parce que la plupart du temps, ils ont collaboré avec le MLNA et tous ceux qui sont au nord qui, en fait, en partie, ont quitté l'armée malienne en grande partie. Donc connaissent bien le dispositif sécuritaire, connaissent que l'effectif ne peut pas permettre aujourd'hui de couvrir l'ensemble du territoire. Donc les failles sécuritaires, ils les connaissent bien. Je prends les zones, quand on prend par exemple la zone de Tomiyan, vous allez constater que bon, il n'y a pas un effectif d'un grand nombre, vu que nous quittons déjà le concept classique de la guerre. Nous sommes déjà dans une forme de guérilla, donc avec un petit groupe de 3 ou 4 personnes, déjà on peut harceler des populations. Imaginez-vous dans une zone où peut-être vous avez une gendarmerie, où vous avez peut-être 10 agents qui sont là pour la sécurité d'une petite sous-préfecture. Vous avez peut-être un camp de garde, où vous avez quelques agents de garde juste qui sont là pour assurer la sécurité des prisons. Vous n'avez pas une garnison militaire. Vous n'avez pas d'équipement lourd pour faire face à ce genre de personnes. Et imaginez-vous quand ils débarquent avec l'armada, comment ça peut terroriser les populations. Donc je dis, et aujourd'hui, il est important que l'État malien prenne toute la mesure de cette insécurité récurrente qui est en train de progressivement gangréner l'ensemble du Mali.
Alors, ces djihadistes sont déterminés à semer la terreur un peu partout. Maintenant, à travers les pays, d'où viendraient-ils, Ousmane Kone?
Ben, c'est la question qu'on se pose et que tout le monde se pose. Mais la réponse vient quand même de quelques personnes qui ont été arrêtées. On y trouve un peu tous les groupes ethniques. Et c'est ça aussi le terrorisme. Parce qu'il faut se dire aussi que la jeunesse aujourd'hui au Mali est complètement désorientée. C'est un appât très facile.
Elle n'a pas de repères, vous voulez dire?
Oui, elle n'a pas très facile. Ce qui veut dire que ces gens-là, ils peuvent recruter dans tous les groupes ethniques, dans tous les groupes sociaux, pourvu qu'ils les appâtent et que ces gens soient complètement sensibles aux propositions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont des Touaregs ou que ce sont des Sans-Rails ou que ce sont... Ils sont tous. Il y a des Bambara, il y a des Peuls, il y a un peu de tout. Mais ce que je veux dire quand même, qu'on a constaté que la plupart d'entre eux sont des jeunes. C'est la question, que la plupart d'entre eux sont des jeunes. Ce qui veut dire qu'il y a une relation entre le désarroi de la jeunesse du Mali et ces groupes djihadistes.
Ces jeunes, on parvient à les avoir peu sur le terrain financier ou sur le terrain religieux?
Oui, le terrain financier. Seulement, j'ai dit quand ils sont la jeunesse malienne au désarroi, ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème financier. Aujourd'hui, il faut. Je vous ai expliqué une fois dans ce studio que lors d'une étude que je menais au Grand Nord, j'ai rencontré un jeune que j'essayais de convaincre de déposer les armes. Ce dernier m'a regardé longtemps et dit: vous, monsieur le consultant, vous vivez avec quoi? J'ai dit que je vis avec mon bic. Il dit: comment voulez-vous que vous viviez avec un bic et que moi je n'ai qu'une Kalachnikov et que mes parents meurent de faim? Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre activité que d'utiliser le seul moyen qui les reste, c'est l'arme et puis la terreur.
L'argument religieux, vous pensez qu'il ne peut pas être utilisé?
Bon,
aussi,
moi, je ne crois pas tellement au motif religieux. Je ne pense vraiment pas au motif religieux. Il peut y avoir sûrement des religieux qui sont les élites pour le recrutement, les utilisateurs, les employeurs, qui ont peut-être des objectifs, mais la plupart de ces jeunes qu'on arrête, généralement, ils n'ont pas d'objectifs. Ils ont été achetés, ils ont été engagés, et ils ne savent même pas pourquoi ils luttent.
Alors, on parle de la complicité de certains autochtones, ce que certains appellent d'ailleurs les cellules dormantes. Y a-t-il lieu d'être préoccupé à ce sujet, Ishaka Tchabli Doumbia?
Ok. D'abord, avant de me prononcer sur cette question, ce que Monsieur Corneau vient de dire tout à l'heure est très intéressant. Vous avez posé la question de savoir d'où vient-il. Vous savez qu'ici, j'avais dit qu'il était dans l'agenda de Mbujaou tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, quand nous regardons ce qui s'est passé, ce qui se passe à Tomiyan, le mode opératoire et les individus qui ont été arrêtés, il y a de forts soupçons de croire qu'il s'agit des combattants de Massina. Et donc, quand vous regardez au rang de ces combattants, vous trouverez des gens qui ont combattu au sein du Mujahou, au sein d'Anxardine. Et donc, ce sont des gens qui sont aguerris dans le combat, dans la terreur, dans la manifestation de la terreur. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ici, à Tomiyan? Qu'est-ce qu'ils veulent? Étendre leur influence et, à mon avis, recruter dans leur rang des jeunes dans des situations de déception totale, des jeunes abandonnés qui n'ont aucune issue. Et donc, face à cette situation, c'est tellement facile de manipuler une jeunesse comme ça. Il l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas des questions religieuses, ce n'est pas du tout des questions religieuses, c'est des questions de survie et qu'il faut aujourd'hui que l'État regarde. C'est un problème qu'il faut envisager à long terme, mais il faut que l'État regarde cela. Alors, maintenant, S'agissant des cellules dormantes au niveau autochtone, il me dit que quand vous prenez les 4 jours de cette circonstance de Tomnia, quand ils sont venus, ils se sont d'abord servis du micro de la mosquée pour essayer de sensibiliser la population. Mais quand ils ont vu que la population a perdu patience, eh bien, tout de suite, ils ont perdu, et également, ils ont perdu patience, et ça s'est tourné à ce que nous savons aujourd'hui. Donc, s'il y a des cellules dormantes, de toutes les façons, c'est que c'est la population qui va les démasquer. Ça, c'est quand même une évidence.
Maintenant, nous donnons la parole à Boakar Bokoum, le politologue.
Merci beaucoup. Moi, je fais franchement une corrélation avec la région. C'est vrai que ce que M. Corneau dit est très pertinent au niveau du chômage, l'inéducation, formation, l'oisiveté de la jeunesse et tout ça. Mm-hmm. C'est d'ailleurs pourquoi la religion, elle devient très dangereuse, parce qu'ils ont déjà un terrain fertile dans lequel ils peuvent facilement recruter. Donc, la religion, c'est quoi? C'est l'aspect dogmatique de la chose qui fait qu'on embobine facilement, on fait un lavage de cerveau et on fait croire aux jeunes que c'est ça être un bon musulman. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réponse qu'on peut donner à cette éducation entre guillemets religieuse, c'est d'apporter une réponse d'éducation citoyenne pour que le Malien lambda comprenne d'abord c'est quoi ma patrie. Moi-même, qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je peux apporter par rapport au système sécuritaire? Parce que quand vous regardez, en réalité, chacun d'entre nous doit se considérer aujourd'hui comme un soldat pour défendre la patrie. Donc notre contribution, elle doit être même plus efficiente que celle de l'armée, ou parce qu'ils ont besoin de renseignements. Et ces renseignements, c'est nous. Le premier contact qu'ils prennent, c'est quoi? On vient dans les mosquées, comme il vient de le dire tout à l'heure, et quand on vient dans une mosquée pour prêcher, l'imam de la mosquée, pour qu'il donne d'abord le micro à un étranger, il faudrait savoir sa moralité. Qu'est-ce qu'il vient dire? Quel message? Donc il y a lieu de réorganiser nos mosquées. Nous sommes tous des musulmans. Les gens qui viennent d'ailleurs ne sont pas plus musulmans que nous. Donc il est temps que les autorités encadrent bien ce problème religieux. Parce que c'est là où le recrutement est le plus facile. Parce que, comme M. Corneau l'a dit, quand on n'a pas assez de choses à faire, on va se réfugier dans la mosquée. Tu vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont des adeptes de la mosquée, qui prennent le chapelet, qui vont passer plus de temps à la mosquée qu'à la maison. C'est que vraiment, il y a un malaise social très très avancé.
Alors, est-ce que le terrain de l'obscurantisme ne rend pas le terrain du terrorisme un peu plus fertile, Ousmane Corneau?
Mais moi, ce n'est plus le terrain de l'obscurantisme. Moi, je crois que s'il faut regarder, il faut regarder le champ des élèves coraniques et des élèves sortant des médersas, à qui l'État ne propose rien. Et généralement, quand il le recrute, c'est dans ce milieu qu'il le recrute. Parce que quand on envoie quelqu'un pour aller prêcher, encore faut-il qu'il sache de quoi il parle. Et ce sont ceux-ci qui savent parler. Ce sont ceux-ci qui, après avoir poursuivi un certain domaine d'études, un certain niveau d'études, ne savent plus que faire, aller s'asseoir pour faire le marabout. Et si ça ne répond pas, ben écoutez, on attend le premier venu. Moi, je crois que c'est une interpellation de l'État à voir comment insérer, comment et prendre en charge ces élèves coraniques qui ont étudié le Coran et qui ont des connaissances coraniques et qui cherchent à en vivre, comme des élèves qui sortent des écoles, les médrasas, qui ont des diplômes et pour lesquels l'État ne propose rien. Et qui sont très faciles à employer dans la mesure où, eux au moins, ils savent lire le Coran et ils savent ce qu'ils peuvent dire.
Je voudrais juste rebondir
Rapidement.
Par rapport à la religion. Vous voyez, quand vous regardez les églises, les missions catholiques et tout ça, dans l'enseignement, il y a un volet quand même biblique. Mais pourquoi, nous, chez nous, on n'a pas un volet où on nous dit on vous enseigne le Saint-Coran? Donc, une fois qu'effectivement, à l'école, ce phénomène est bien encadré, parce que nous sommes tous issus généralement de familles musulmanes, nous avons besoin de comprendre notre religion. Si l'enseignement commence très tôt à l'école, on a de fortes chances qu'on ne va pas dans la dérive, effectivement, des écoles coraniques, parce que ça va être un enseignement encadré par le ministère de l'Éducation nationale, avec un programme bien défini. La religion, elle sera bien comprise, et nous aurons la chance d'avoir un islam bien compris.
Voilà. Merci. Studio Tamani, 18h20, dans quelques secondes, une première pause.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, nous étions donc en train de parler de ce livre dormante. On disait à ce sujet que la jeunesse, quand même, est une proie facile. Alors, vous, Ishaka Tcheblé Doumbia, du Centre d'analyse économique et politique, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je souhaiterais quand même encore essayer de rebondir dans le même sens que les précédents. Vous savez que notre, parfois, des systèmes que nous avons même nous-mêmes mis en place tournent parfois contre nous-mêmes. C'est un peu le cas. L'État est en train de se désengager de tous les secteurs vitaux de la vie d'une nation. Aujourd'hui, l'interprétation qu'on fait de la laïcité pose énormément de problèmes. La question de la laïcité dans nos États pose énormément de problèmes. Et ça pose d'autant plus de problèmes qu'aujourd'hui, que c'est un système, un principe qui s'est retourné contre l'État lui-même. Vous dites que, eh bien, l'État, il doit avoir une séparation nette entre l'État, l'Église, entre l'État et la religion. Tout à fait d'accord. Mais quitte à aller dire que l'État ne doit même pas avoir un droit de regard sur les différentes fois qui animent cet état-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ne peuvent pas abandonner, ils ne peuvent pas renoncer à leur foi, ils pratiquent comme ils veulent, ils apprennent comme ils veulent, ils vont chercher à vivre comme ils veulent. Quitte à l'État maintenant d'encadrer comment s'effectue la vie dans cette communauté-là. Il a parlé des élèves coraniques. Maintenant, on fait le bac dans cette discipline, on part dans les universités, mais à la sortie, rien. Absolument rien. Et donc, il faut que l'État ait un droit de regard sur ce qui se passe là-bas. Non seulement encadrer, mais également faire des propositions concrètes, parce qu'également, ce sont des citoyens comme tous les autres citoyens de la République.
Mm-hmm. Alors, la pauvreté, les situations extrêmes, donc, peuvent favoriser ce genre de...
C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, mm-hmm. Quand il y a des situations de ce genre, c'est tellement facile de manipuler les gens au nom d'une certaine religion. C'est aussi facile que ça.
Un autre aspect, concernant concrètement la religion, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une religion, la religion, quand elle est mal expliquée, et souvent même expliquée par des gens qui ne comprennent même pas la religion, est-ce qu'à la longue, ça ne peut pas poser problème?
Ça peut poser problème, et c'est ce problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et c'est pourquoi il faut que l'État intervienne dans ce secteur. Mais quelle doit être la limite de son intervention? C'est toute une question qu'il faut également qu'on se pose.
Boakar Boku.
Merci beaucoup. Moi, je rebondis tout de suite. Je dis, en fait, c'est juste le problème de la gouvernance qui se pose en réalité. Parce que quand vous regardez le problème sécuritaire, quand on observe au Mali, dans tous les domaines que vous prenez, ça ne va nulle part. Que ce soit l'enseignement, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'armée, dans tous les recoins de nos différentes administrations, nous avons de sérieux problèmes. Donc, le vrai problème qui se pose chez nous aujourd'hui, qu'il faut admettre, c'est le problème de la gouvernance. Alors, si dans un pays, on est gangréné par un système où il y a l'impunité, où à la clé, il y a de sanctions nulle part, il y a de cadrage nulle part, donc nous sommes exposés à toutes les dérives. Quel que soit le schéma que nous allons mettre en place, si nous ne sommes pas capables de mettre des limites et dire qu'à chaque moment que quelqu'un aura outrepassé une limite fixée par l'État et qu'il encourt des sanctions, il est évident que personne ne respecte rien du tout. Quand vous prenez... Moi, je regarde un peu ce qui se passe au Tchad. Le Tchad qui a beaucoup souffert pour nous et pour pratiquement toute la sous-région. Et aujourd'hui, Idriss Déby, il interdit la burqa et puis le turban chez lui. Les gens pensent qu'il est fou. Je dis, mais il faut qu'on interdise ça au Mali. Moi, souvent, je suis choqué quand je vois des gens qui portent des cagoules, parce que je n'appelle pas ça, en fait. Est-ce qu'on a besoin de se masquer jusqu'à n'avoir que la petite visière des yeux pour dire qu'on est musulman? Non, il faut qu'on arrête. Que ce qui est strictement religieux soit compris. Maintenant, les dérives et les maladies que les gens ont, qu'on mette les doigts dessus. Et si ça doit toucher au problème sécuritaire, il faut qu'on sache effectivement où mettre les limites entre le comportement religieux et le comportement sécuritaire d'une nation. La sécurité, elle n'a pas de prix. Donc il est temps qu'on mette l'accent sur ces aspects que j'estime franchement choquants de mon point de vue.
Avant de donner la parole à Ishaka Tcheblé Doumbia, je crois que nous allons demander au spécialiste en sécurité du Sahel, Ousmane Corneau, de réagir.
Oui, moi je crois que ce qu'il faut constater, mon prédécesseur l'a dit, c'est l'explication de la laïcité. Et remarquez comment se comportent les soi-disant leaders religieux dans ce pays. Ils ont leur radio, ils passent toute la journée à arnaquer la population, du nazi qui donne tout, des l'encens qui donnent tout le bonheur, et le gouvernement ne dit rien. Pour moi, c'est une autre forme de terrorisme.
c'est une autre forme de terrorisme. Ce sont les gens qui n'ont pas eu le courage d'aller prendre la Kalachnikov pour attaquer les gens et leur retirer leur bien. Moi, je crois que la laïcité a une signification ce qui ne veut pas dire le laisser aller et que le religieux soit quelqu'un qui soit capable de tout dire, de tout faire et dans l'impunité totale. Et je crois que c'est de ça aujourd'hui que nous sommes en train de souffrir.
Deux mots sur l'interdiction de la burqa au Tchad mon prédécesseur a souligné tout à l'heure. Oui, beaucoup m'ont souligné tout à l'heure. Vous savez que j'ai eu à échanger avec mes collègues sur cette question, mais je me suis dit, aujourd'hui, pour lutter efficacement contre le terrorisme, il y a vraiment des mesures qu'il faut. Nous sommes toujours en retard sur ces terroristes-là. C'est ce qu'il faut noter. Vous interdisez aujourd'hui là. Pourquoi vous interdisez que les femmes aient leur visage totalement couvert? Demain, ils viendront avec d'autres stratégies que vous n'avez même pas imaginées. Est-ce que vous savez que les attentats de World Trade Center ont été préparés depuis 1994? Depuis 1994, ils étaient en train de planifier ce plan. Et les opérations ont eu lieu en 2011. Eh bien, ce n'était pas même prévu que ça se passe dans des appareils volants. Et donc, je vais vous dire une chose, c'est que pour lutter contre le terrorisme, nous allons en parler peut-être dans les prochains thèmes, mais il faut aller au-delà de ça. Ce que le Tchad vient de poser tout à l'heure, bon, je me pose la question sur le nombre d'attentats commis, quel est le pourcentage des attentats qui ont été commis par des hommes voilés, par des femmes qui portent la burqa. Je me pose cette question et naturellement, quel impact cette décision peut avoir concrètement à la longue terme, parce que ce sont des gens qui sont tellement faciles à s'adapter à des situations.
Voilà. Vous voulez réagir?
Oui, je voulais juste réagir pour dire en réalité, c'est des signaux qu'un État doit toujours pouvoir envoyer. Il ne s'agit pas de voir le ratio en termes de proportionnalité. Il s'agit d'envoyer un signal très fort par rapport à la réaction prompte d'un État responsable face à une situation donnée. Et là où je suis entièrement d'accord avec lui, là, et peut-être que nous allons l'aborder dans la deuxième phase, c'est le renseignement. L'avance, c'est quoi? Le renseignement. Ça, c'est la clé de la guerre. Maintenant, si on a le renseignement, comment utiliser cette information? Parce qu'on a constaté aussi qu'au Mali, on a un grand déficit dans la communication institutionnelle. Nos institutions communiquent très mal. Une fois que la population ne s'est pas appropriée de la vision, de l'objectif d'un État, l'application des textes et tout le processus qu'on met en place, l'application devient très difficile. Donc, en amont, effectivement, il y a une préparation qu'il faut bien mettre en place. Notre service de renseignement doit être bien équipé, mis dans les conditions, les ressources humaines. Parce que, en réalité, comme je l'ai dit, je reviens toujours à la gouvernance. Souvent, quand vous prenez un individu qui divulgue les secrets de l'État, quelqu'un qui travaille dans le service de renseignement, qui est mis en mission et qui va aller juste s'asseoir au grain, en train de prendre du thé, il dit « Ah, Antara Kidal, on est parti là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Donc, il y a problème. Donc, l'éducation fondamentalement, l'éducation civique, pour pouvoir encadrer le Malien type, le prototype, même, nous voulons même quel genre de Malien, en fait. Avant de parler même de l'État, quel genre de Malien nous voulons et pour quel objectif? Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Qu'est-ce que nous voulons faire de ce Mali dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? Qu'est-ce que nous voulons? Et quel type de citoyen il faut créer? Parce qu'il faut le former, il faut le forger. Les enfants, il faut les mouler pour aller dans une vision. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité, malheureusement.
Alors, Ousmane Cornéo, êtes-vous d'accord que pour lutter de façon plus efficace contre le terrorisme, il faut mettre l'accent sur le renseignement?
Oui, le renseignement est à la base de tout aujourd'hui. Et même ce qui se passe aujourd'hui à Tomina, il aurait fallu que les populations signalent qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est anormal. Même s'ils n'ont pas été jusqu'au bout et donné tous les renseignements, parce que vers la fin, ils craignaient pour leur propre sécurité. Ça veut dire aujourd'hui que si on veut mettre les populations aussi dans les renseignements, il faut assurer leur propre sécurité. Parce que parfois, tu le vois et on te dit, bon, écoutez, si tu le dis, je t'égorge. Donc, le renseignement, il est bon, mais il faut que ceux à qui on demande de renseigner, il faut qu'ils soient sécurisés aussi.
Oui, ceux à qui on demande le renseignement doivent être sécurisés. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand ils ont vu qu'il y avait des informateurs dans la ville de Tomina, eh bien, la situation s'est tournée court. Mais avant d'arriver jusqu'à ce niveau, quand vous prenez les nations développées, ce sont des nations qui disposent des réseaux satellitaires les mieux développés qu'ils soient au monde. Ils contrôlent toutes les communications. Et donc, les renseignements, pour eux, c'est très facile. Vous venez au Maghreb, eh bien, leurs moyens, le pétrole fait que la présence même des militaires dans les différents coins fait déjà que c'est une sorte de renseignement. Mais ici au nord, qu'est-ce qui fait que la question qu'on se pose, comment, eh bien, un terroriste peut prendre en otage un étranger, il garde cet étranger pendant 2 ans, 3 ans.
c'est parce qu'il parvient à contrôler cette population avec de l'argent. Avec de l'argent parfois qui est donné par les rançons. Et donc, aujourd'hui, pour lutter contre cette situation, il faut impérativement qu'il y ait du renseignement. Notre État est très faible. Notre État n'a pas suffisamment des moyens technologiques, des moyens financiers, des ressources humaines. Nous n'en avons pas assez. Mais sur quoi nous pouvons nous miser pour avoir un système de renseignement efficace? Il faut impérativement la coopération, la collaboration, la population. Mais si cette population voit, parce qu'il y a cet aspect qu'il faut également souligner. Moi, j'ai fait le trajet d'ici jusqu'à Khalil. J'ai vu, c'était avant les événements, ce que nos militaires faisaient à ses propres ressortissants. On m'a posé la question de savoir ce que j'ai cherché à Gao. Un gendarme malien qui me pose la question de savoir ce que j'ai cherché à Gao. Je veux juste dire que si vous voulez que la population coopère, la population n'a même pas de choix parce qu'il en va de sa sécurité. Mais si vous voulez qu'elle coopère efficacement, vous avez dit que nous avons besoin d'un autre Malien. Il faut que nous ayons d'autres forces. Il faut que les forces soient des forces républicaines qui servent des valeurs, qui servent des principes, mais qui ne sont pas là à embêter la population. Mais parce qu'à la limite, c'est ça. Les terroristes ne nous laissent pas tranquilles. De ce coin-là également, les militaires ne nous laissent pas tranquilles parfois. Vous êtes avec votre partenaire, on vous demande de l'argent. Vous avez un fusil avec vous. On vous dit, ben écoutez, votre fusil n'a pas de papier. Eh bien, ça n'a pas de papier. On ne prend pas le fusil, mais on demande de l'argent à cette population. Donc, à la limite, la population se trouve révoltée contre l'État, contre nos forces de l'ordre. Eh bien, maintenant, voilà que les terroristes se pointent à l'horizon, et la question est de savoir s'ils vont basculer dans le camp des terroristes ou ils vont continuer dans ce sens. Mm-hmm. Voilà, donc pour qu'il y ait un système de renseignement efficace, pour qu'il y ait une collaboration de la population, il faut que nous soyons, les forces soient des forces républicaines, c'est à ce seul prix que la population peut effectivement collaborer.
Les forces armées maliennes ont quand même bombardé récemment un camp d'entraînement des djihadistes dans la région de Sikasso. Est-il probable qu'il y ait d'autres découvertes du genre, Ousmane Cornéo?
Oui, c'est pas le premier camp qu'on a découvert. On en a découvert à quelques kilomètres de Bamako, où il y avait 200 Kalachnikov avec d'autres armements. Ça veut dire qu'ils peuvent se trouver un peu partout. Et il faut être vigilant. Et revenant sur la question de renseignement, le vrai problème, c'est la réaction des autorités au renseignement. La plupart du temps, quand vous êtes même attaqué, harcelé, vous appelez les forces de l'ordre. Soit ils disent qu'ils n'ont pas
de carburant,
ou ils n'ont pas de moyens de déplacement, ou à vrai dire, ils n'ont pas de moyens de riposte. Ou parfois même, il y a un certain nombre de signaux qui se passent et que tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant la crise de 2011, tout le monde savait au Nord qu'il y a quelque chose qui se préparait et qui n'allait pas. Et ces signaux-là, même le gouvernement était au courant, mais aucune mesure n'a été prise. Donc parfois, les gens se disent, est-ce que c'est la peine de perdre son temps à renseigner, à signaler les choses anormales qu'on attaque. Pourquoi ne pas chercher à en profiter? Et tout ça, ça rejoint un peu la situation de pauvreté, de précarité des populations et les propositions que font ces rebelles et puis ces terroristes. Parce qu'en fait, ils ont tous les moyens aussi pour corrompre les informateurs.
Tout à fait.
Boakar, beaucoup.
Merci. Je voudrais juste rebondir sur ce que M. Cornet a dit. En fait, il y a le problème de l'anticipation. D'abord, quand vous dites que est-ce qu'on n'est pas prêt à découvrir, naturellement. Aujourd'hui, le Mali est une cache d'armes. C'est une poudrière. On est assis sur une poudrière. Et nous, malheureusement, nous ne connaissons pas bien l'étendue de notre territoire. Nous ne maîtrisons pas. Même ceux qui sont les spécialistes, qui sont les militaires et tout ça, ils ne maîtrisent pas la totalité du territoire. Donc, effectivement, des armes sont cachées un peu partout. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, l'État a été absent. On a laissé faire les 10 dernières années. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'armée. On a plutôt démilitarisé le Nord. On a tout dégarni. Donc, les djihadistes, les narcotrafiquants, ils ont eu tout le temps de s'implanter et de cacher leurs armes. Donc, effectivement, si nous n'avons pas une grande capacité d'anticipation, nous allons toujours être au dépourvu. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'aller bombarder, mais c'était de les découvrir bien avant qu'on ait les moyens de les utiliser, parce qu'ils cachent les armes, ils s'approchent de Bamako, ils s'approchent du centre, ils prennent les armes, ils attaquent et ils replient. Mais le problème, il est même plus grave, parce que même l'autre jour, je voyais que des gens ont été braqués en pleine ville de Bamako. Donc ça veut dire que le problème sécuritaire, il prend d'autres proportions. Je reviens toujours là-dessus, le problème de la gouvernance des hommes. Il y a des problèmes. Il faut que les gens qu'on recrute, par exemple, dans l'armée, ou bien qu'on recrute dans la police. Moi, je m'en vais même dire qu'aujourd'hui, la police, quand vous observez bien la déliquescence de ce corps est dû au fait aujourd'hui, fondamentalement, au fait qu'on est même allé à la démilitarisation, parce qu'il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune hiérarchie, chacun fait ce qu'il veut dans son petit coin. Vous appelez un policier, comme M. Corneau vient de le dire tout de suite, vous êtes agressé en pleine nuit, on te dit non, il n'y a pas de carburant, on n'a pas de véhicule. Vous allez pour la carte d'identité, on vous fait dormir, vous arrivez à 4h ou 5h du matin et à 6h on vous dit qu'il n'y a plus de carte d'identité parce qu'on a fini de livrer 5 ou 10 personnes. Donc il y a quand même un grand malaise, c'est une mafia qui est installée là. Il faut que l'État le démantèle d'abord en interne avant de parler des autres.
18h45, nous allons observer une courte pause avant de continuer ce débat.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, les attaques, il y en a de plus en plus au sud du pays. La situation au nord du pays à présent, comment se présente-t-elle? Est-ce qu'elle s'est améliorée? Je pose la question à Issa Tcheblé Doumbia.
Vous savez qu'à mon avis, nous allons essayer jusqu'à un terme, bien que je ne suis pas en mesure de dégager tout de suite, persister dans une sorte d'insécurité même au nord. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu des attaques entre Gao et Gossi. Et donc, c'est l'armée malienne qui a été attaquée.
On parle d'embuscade.
D'embuscade, oui. D'embuscade entre Gao et Gossi, vers Doro, à Doro précisément. Et donc, c'est que, bien qu'on a signé de l'accord, bien qu'aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on va mettre en œuvre cet accord-là et que ça va ramener la paix, à mon avis, l'insécurité totale. Tant que, comme l'a dit M. Bokoum tout à l'heure, nous n'avons pas terminé de découvrir toutes les caches d'armes, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous tournons définitivement dos à ce système-là, à cette situation.
Ousmane Corneau.
Oui, bon, il faut reconnaître qu'en fait, que le nord, au nord, il y avait deux types de terroristes. Il y avait les terroristes et les narcotrafiquants, qui pour eux, l'accord ne signifie rien. D'ailleurs, l'accord les demande de persévérer et dans la mesure où leur objectif est un objectif purement économique. Donc il faut tout faire parce que dans les désordres, eux, ils en bénéficient, ils en profitent. Mais il faut reconnaître quand même que parmi ces terroristes avant, il y avait aussi les membres des groupes armés. Et il faut reconnaître qu'avec l'accalmie qu'on connaît, je pense, en tout cas à mon humble avis, que ceci, compte tenu du fait qu'il y a eu l'accord, et que l'accord propose et prévoit l'intégration, ceci cherche à s'accrocher à des groupes organisés pour se faire intégrer. Et tout ceci qui sont dans cette logique, aujourd'hui ils n'attaquent pas. Et je crois que c'est cette forme d'accalmie que nous constatons. Mais quant aux vrais narcotrafiquants, eux, ils n'ont pas baissé la main. C'est d'ailleurs eux qui ont essayé de descendre jusqu'au sud pour montrer qu'en fait, qu'ils sont capables de taper un peu partout. Mais il faut reconnaître qu'au nord, il y a accalmie de part du fait qu'il y a quand même un groupe qui s'est retiré et qui est en train de chercher à mieux profiter, à profiter davantage des retombées et de cet accord signé.
Oui, il y a M. Corneau parle d'une académie que je qualifie d'une académie précaire pour l'instant. Précaire, il a parlé des groupes terroristes, des groupes narcotrafiquants. Vous savez, dans cet accord-là, on parle de DDR, hein, démobilisation, désarmement et réinsertion. On parle ça dans mais quand vous prenez, ça n'arrange pas du tout les groupes narcotrafiquants. Vous savez, on accompagne un cargo rempli de drogue de Gao, ne serait-ce qu'en partant vers Kidal, vous avez quelques millions. À coup sûr, vous avez des millions que vous ne pouvez même pas remporter pendant toute votre carrière au sein de l'armée malienne. Et donc, c'est des gens qui ne cherchent ni à intégrer l'armée malienne, ils cherchent uniquement à avoir ce qu'ils veulent. C'est vraiment l'argent. Et cet argent, voici, c'est vraiment dans le trafic.
La peur a vraiment changé de côté actuellement.
Donc moi je voudrais juste dire que franchement j'avoue que de mon point de vue ça va beaucoup mieux parce que déjà quand il y a l'accord les gens, il ne faut pas que les gens rêvent quand même, hein. On ne peut pas juste dire qu'on a signé un accord et puis voilà tout va bien. Même aux États-Unis on n'a pas la sécurité à 100%. Donc faire le distinguo entre le problème qu'on connaissait et le banditisme, c'est des choses différentes. Ce qu'il vient d'évoquer tout de suite, ça c'est du banditisme et l'État va continuer à faire éternellement face aux bandits. Ça, on ne va pas échapper. Mais il faut d'abord qu'au préalable, on puisse déjà recoller les morceaux et avoir un État viable. Une fois que nous avons un État viable, avec toutes ses composantes nationales à l'intérieur, effectivement, le problème de la gouvernance réelle va se poser. Et à partir de là, nous allons attaquer l'insécurité résiduel en termes de banditisme. Donc, c'est deux choses différentes. Moi, je pense que déjà que le MLNA ne parle plus de diviser le pays et tout ça, et qu'on reconnaisse déjà le président de la République en tant que tel, qu'on reconnaisse l'unicité du Mali, et tout ça déjà, c'est des garanties suffisantes, mais les petits problèmes, on va les gérer jusqu'à ce que voilà, tout le monde puisse avoir son compte voilà, pécunier ou ceux qui veulent avoir de la place dans la fonction publique. Et ainsi de suite, on fera du mieux qu'on pourra pour que voilà, il y ait une stabilité plus pérenne.
Alors, la mort de Wadou Sen, l'arrestation d'un proche d'Yada Wa non loin de ça, une autre arrestation du côté de Baraouli, on peut quand même en parler d'avancée dans la lutte contre le terrorisme, non, Ousmane Corneo?
Oui, moi j'ai toujours dit, j'ai dit que maintenant il ne reste plus qu'un seul bouc, c'est Yad. En fait, tous ceux qui faisaient terreur et faisaient peur aujourd'hui au Sahel, Mokhtar Ben Mokhtar, et qui d'autres encore avant. Je crois qu'aujourd'hui, avec la mort de Wasuden, et même Yad a peur, dans la mesure où Yad, c'est peut-être le cerveau. Si le HCA, qui est un groupe avec lequel il est plus ou moins proche, le MLA, et le MAA, et tout ceci s'engage dans le processus de l'accord et de... De la sécurisation totale du Nord, moi je crois qu'il se pose aujourd'hui de plus en plus de questions. La peur a vraiment changé de côté. Et je crois que l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme commence quand même à apporter des fruits. Aussi bien du côté de Barkhane que du côté de l'armée malienne. Et de plus en plus, on apprend, on constate que les grosses têtes tombent, les gros acteurs tombent. Et je crois que ça donne un peu plus d'assurance par rapport à cette lutte contre le terrorisme. Je suis sûr qu'il y a ne dort pas aujourd'hui.
Oui, c'est certainement. C'est vrai que la paix a aujourd'hui changé de camp. Et il y a eu des arrestations, il y a eu des coups durs qui ont été portés. Mais ce que moi je souhaiterais souligner à ce niveau, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours persister dans ce sens-là. Parce que les terroristes, ils n'y renoncent jamais. Leur plan, ça, ce n'est pas des individus. Ben Laden est mort, on continue toujours de parler de terrorisme. Et donc, de la même manière, on va continuer à porter des coups sur ces gens-là. Mais encore et encore, ils vont continuer à s'organiser, à s'alimenter. Donc, il ne faut jamais relâcher. Il faut toujours rester vigilant, comme l'avait dit tout à l'heure Monsieur Bokoum. Et donc, c'est ce que je souhaite rajouter à ce niveau.
Le politologue Boakar Bokoum.
Merci bien. Moi, je m'en vais citer Machiavel en disant qu'on peut regagner par la paix ce qu'on a perdu par la guerre. Ça, c'est de Machiavel. Ce que je voudrais dire, c'est juste interpeller vraiment la classe politique malienne. Parce qu'on a à chaque fois parlé de l'État. C'est vrai, mais les animateurs, c'est quand même les politiques. Mais où est-ce que les politiques, ils sont? Je ne les vois pas en train de s'approprier convenablement de ce problème de l'insécurité. Je parle notamment des élus communaux, le Haut Conseil des collectivités, mais c'est à eux de descendre, aller vers les populations. Parce que le renseignement dont l'État a réellement besoin, il faut que les gens intègrent le problème même de l'insécurité. C'est quoi l'insécurité? Et en laissant les informations passer, en ne donnant pas l'information à l'État, qu'est-ce que ça porte comme préjudice? Donc les élus, les députés, les maires, mais où est-ce qu'ils sont? Il faut qu'ils descendent sur le terrain, qu'ils aillent informer les gens, qu'ils nous disent ce qui se passe.
Issa Gatchablé qui veut donc réagir.
Oui, deux mots sur ce que vient de dire M. Bokoum. Vous savez que je ne vais pas donner son nom, mais il y a un haut placé de la présidence burkinabé qui disait, sous la présidence de Blaise Compaoré, qui disait que tant que Bamako n'est pas, tant qu'à Bamako on peut vivre en paix, ce qui se passe au nord ne nous intéresse pas, ne n'intéresse pas la classe politique.
C'était son avis ou alors
C'est-à-dire que c'est fait dans le cadre d'un échange avec également un représentant du Quai d'Orsay, du ministère français des Affaires étrangère. Et donc, il disait que tant qu'à Bamako, on peut vivre en paix, tant qu'à Bamako, on peut se partager les gâteaux, ce qui se passe au nord n'est pas... Je veux juste mettre l'accent sur les décrets d'irresponsabilité de la classe politique malienne. Et je suis vraiment désolé d'employer ce terme, mais c'est vraiment... Je ne peux pas employer d'autres termes que ça. J'ai personnellement à faire des recherches sur ce que j'appelle l'irresponsabilité de la classe politique malienne. Aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est des questions, pour parler des collectivités, c'est des questions de parcelles, c'est des questions... Donc, tout ce qui a trait à la sécurité de la population, à leur, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils voient, c'est vraiment les gains quotidiens. Et donc, c'était juste pour mettre l'accent sur quand même le degré élevé de responsabilité de la classe politique.
Ousmane Corneo.
Moi, je veux vraiment mettre un bémol sur ce point. Parce que, et constater que chaque fois qu'ils sont arrivés dans une commune, dans un village, ils ont cherché à savoir
qui est le chef de village, qui est le maire, qui est le, l'autorité.
Le symbole de l'État.
Et ce sont ceux-ci auxquels ils attaquent. Oui. Et chaque fois qu'un d'entre eux a été tué, qu'est-ce que l'État fait? Nous regrettons. Nous regrettons.
Oui.
Nous avons eu des préfets qui ont été égorgés, m'excusez du terme, à Kidal, qui sont devenus aujourd'hui leurs parents. Donc moi je suis entièrement d'accord avec ces élus. Parce qu'il faut faire la différence entre les élus et la classe politique. La classe politique là, ce n'est qu'à Bamako. Les partis politiques là, ce n'est qu'à Bamako. Mais les élus qui sont, et surtout les élus locaux, aujourd'hui, ils sont tous à Bamako. Tous les élus de Gao sont aujourd'hui à Bamako. C'est à forte raison, dans la mesure où chaque fois que quelqu'un est tué, ceux qui sont tués. Ben écoutez,
vous savez,
il faut se protéger.
Oui, je vous comprends. Parfaitement bien. Mais franchement, j'avoue que le problème se pose en amont. C'est vrai que ce dont vous parlez, c'est les conséquences d'une mauvaise gouvernance. Mais avant d'en arriver là, mais la gouvernance, le schéma politique est animé par qui? C'est les partis politiques. Le rôle des maires, c'est quoi? La sécurité de sa population. Mais pourquoi il n'a pas le renseignement? Si l'État a failli à certains niveaux, ben c'est à lui de tirer la sonnette d'alarme et de dire à l'État, voilà ce que vous devriez faire. Par exemple, quand vous prenez, même à Bamako ici, vous prenez l'aspect de la sécurité. Mais on a l'impression que c'est le commissaire de police qui gère la sécurité. Alors que le maire, il est le premier responsable de la sécurité. Quand vous voyez la structure comme Anazer qui s'occupe de la sécurité routière, mais ils sont les maires dans le dispositif. Non, juste je veux dire que c'est vrai, l'État a failli à beaucoup de niveaux, mais il faudrait que les maires qui sont la proximité, la gestion locale, parce que le chef de l'État ou la grande machine de l'État ne peut pas tout contrôler. Maintenant, si, c'est ça, là où la décentralisation poussée, elle est pertinente. Si effectivement les communautés locales prennent en charge leur sécurité réelle, c'est à eux de dire que voilà, ma ville, la faille, le problème de l'infiltration peut se passer à tel niveau parce que j'ai une bonne cartographie et le renseignement me dit que ça va venir de tel côté, voilà ce dont j'ai besoin. Avant même de faire appel à l'État, la communauté même localement peut dégager des moyens conséquents, ou même s'il faut organiser les gens en termes de groupes d'autodéfense ou tout ce que vous voulez en attendant que l'État n'arrive, quand même, on est alerte par rapport à quelque chose et on peut donner des informations fiables aux structures spécialisées. Mais en réalité, quand vous observez sur le terrain, on est absent. C'est vrai, les partis politiques sont...
Sa sécurité n'est pas assurée.
Oui, non, ce n'est pas seulement qu'à ce niveau, mais c'est à eux d'assurer leur sécurité.
Non.
Monsieur Corneau, vous savez...
Plutôt peut-être que les responsabilités sont partagées.
Vous savez, par exemple, quand je prends une localité, par exemple, comme Diré, que je connais, vous arrivez, par exemple, dans une localité comme Diré, vous n'avez pas un camp militaire. Mais quand des djihadistes débarquent avec une pick-up ou deux pick-up, chargé d'une 12-7 avec trop de balles.
Et sur cet aspect, alors, on va faire un dernier tour de table en deux mots. Le temps, il est resté. Allez-y.
D'accord, c'est pour dire juste que la population va paniquer. Mais la riposte, elle n'est pas là. Mais s'il y a de l'information en amont, c'est d'informer la structure sécuritaire en amont que voilà, il y a telle chose qui se passe et voilà les dispositifs qu'il faut prendre. Mais si les élus locaux eux-mêmes savent, parce qu'en réalité, entre nous, on se connaît. Hein? Le maire de la localité sait qui est IAD, qui est la ramification d'IAD, qui vient prier à la mosquée. Toutes les informations, ils l'ont, mais ils n'ont pas le courage suffisant pour le dire. Maintenant, il faut qu'ils aillent à ça.
Ousmane Corneo.
Oui, moi, je crois que ceux à qui on demande d'assurer notre sécurité, il faut qu'on leur donne les moyens d'assurer leur propre sécurité avant d'en assurer pour les autres.
D'accord.
Juste pour essayer quand même d'adresser une mention spéciale au maire de Gao, M. Diallo, qui, quand même, pendant les événements, a montré de quoi et quelle était vraiment sa responsabilité face à cette situation. Et donc, c'est justement ça qu'on interpelle toutes les autorités.
Alors, c'est ça qu'on attend de tous les maires.
Alors, nous sommes donc au terme de ce débat. Nous promettons que vous, les spécialistes, et nous, les observateurs, nous allons quand même voir comment les choses vont évoluer et c'est sûr que nous allons nous retrouver une nouvelle fois prochainement dans ce studio pour revenir sur ce système. C'est donc tout pour votre émission Le Grand Dialogue de ce mardi 21 juillet 2015. Le sujet c'était la situation sécuritaire au Mali. Pour en parler, nous avons reçu Ousmane Corneo, spécialiste en sécurité au Sahel, Siaka Tchèblé Doumbia du Centre d'analyse économique et politique et Boubacar Boukoum, politologue. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba, réalisation Ousmane Djadje Touré, mise en onde mise en onde, nous on dirait à la régie vidéo, c'est bien Salim Diouara. Alors, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre sujet.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.